Radio Okapi. Le journal Babel pour Mouba Simango.
Le vice-premier ministre de la Défense plaide pour la fin de la complaisance envers ceux qui perturbent la paix. Guy Kabongo lance aussi un appel pour la concrétisation sur terrain des engagements pris à Doha et à Washington. Il a dit samedi en Zambie au cours d'une réunion des ministres de la Défense de la sous-région. Relancer l'économie solidaire au Nord Kivu malgré les affres de la guerre, c'est le défi que se lancent les associations villageoises d'épargne et de crédit. À Masisi, elle mobilise les membres pour renouer avec cette habitude qui aide beaucoup de familles. Vous l'avez sans doute constaté, Radio Okapi vient de lancer une nouvelle grille de programme ce lundi. Comment se présente-t-elle? Qu'est-ce qui change? Jean-Marc Matouaki, directeur des programmes de Radio Okapi, est notre invité. Bonjour à tous. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale mobilise ses collègues des pays membres de la CRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Guy Kabongo Mandavita a réitéré son appel samedi lors de la réunion extraordinaire des ministres de la Défense de la sous-région tenue à Livingston en Zambie. Il a rappelé que la situation dans l'Est de la RDC n'est pas seulement une crise congolaise, mais elle représente aussi une menace directe pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Que retenir d'autre de son message, Blaise Ndongala?
Dans son discours, le ministre congolais de la Défense nationale a souligné que la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs traverse une crise sans précédent et que le monde, tout comme les peuples de la région, attend des actes concrets et non des déclarations sans suite. Guy Kabombo Mwadiavita a insisté sur le fait que la paix ne peut plus être retardée ni conditionnée à des calculs politiques et que les mécanismes régionaux doivent devenir crédibles, opérationnels et dissuasifs afin de protéger les populations civiles et mettre fin au cycle répété des violences. À la tribune de ce forum, le vice-premier ministre de la Défense a lancé un appel à refuser toute complaisance envers les ennemis de la paix et à transformer les engagements pris dans les accords de Doha et Washington en actions visibles sur terrain. À cette occasion, il a particulièrement mis l'accent sur l'opérationnalisation effective du mécanisme conjoint de vérification élargie plus comme un test de crédibilité pour la CIRGL et pour l'ensemble de la région. Guy Kabombo Mwadiavita a en outre rappelé que les conclusions des assises de Livingston ne doivent pas rester lettres mortes.
Dans la province du Olomami, on a dénombré 8 morts et plusieurs blessés après des affrontements hier dimanche entre des présumés Maïmaï Bakata Katanga et des militaires de FARDC à Bukama. D'après l'administrateur intérimaire de ce territoire, les blessés par balle nécessitent une évacuation vers des structures médicales plus équipées pour une bonne prise en charge. Joint au téléphone par Jean Gandou, Madou Kalinga lance un SOS en ce sens et revient également sur les faits.
Nous avons reçu des éléments FARDC pour venir s'ajouter à l'effectif de départ. On attendait qu'ils viennent présenter leur civilité, mais curieusement, le matin, on a attendu déjà les coups de balle. Même nous, les autorités, on ne savait pas de quoi il s'agissait. On a tenté de contacter leur hiérarchie. Ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par des éléments qui se réclamaient Bakata Katanga. Et il y a eu cet affrontement qui a conduit à la perte de 6 éléments supposés Bakata Katanga, ainsi que 2 civils tués par balles perdues, mais aussi il y a déjà 8 blessés qui sont à l'hôpital. Je profite de cette occasion pour faire un plaidoyer au niveau du gouvernement central ainsi que provincial afin de venir en aide le blessé, parce que parmi eux, il y a des gens qui doivent subir les opérations. Mais vu que nous sommes en manque d'infrastructures appropriées pour les opérations, voilà pourquoi nous faisons ce plaidoyer pour que le gouvernement nous vienne en aide.
Madou Kalinga, administrateur intérimaire du territoire de Bukama dans le Olomami. Dans le territoire aussi, ces chiffres alarmants, plus de 250 000 réfugiés congolais vivent actuellement au Burundi, un afflux massif provoqué par l'aggravation de l'insécurité dans l'est de la RDC, une situation qui inquiète les acteurs humanitaires. Face à cela, la ministre d'État, ministre congolaise des Affaires sociales et humanitaires, Eve Bazaïba, s'est rendue vendredi à Bujumbura, capitale du Burundi. Sa mission, évaluer l'urgence humanitaire et renforcer la coordination de l'assistance. Les besoins sont importants et l'urgence s'impose, nous dit Kassam Sati.
Selon les données humanitaires, plus de 101 000 déplacés congolais ont franchi la frontière burundaise après la chute de la ville d'Uvira, portant à plus de 250 000 le nombre total des réfugiés congolais au Burundi. originaires principalement du Nord Kivu et du Sud Kivu, se déplacés vivent dans des conditions précaires sur plusieurs sites d'accueil. Parmi eux, près de 30 000 enfants sont privés de scolarité, ce qui accentue la vulnérabilité des familles. À Bujumbura, la ministre des Affaires sociales s'est entretenue avec les autorités burundaises et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de renforcer la coordination de la prise en charge. Les besoins restent importants. Alimentation, eau potable, soins de santé et abris d'urgence. Le ACR signale une situation sanitaire préoccupante avec 53 décès recensés dont 25 liés au choléra et estime à plus de 33 millions de dollars américains les ressources nécessaires pour faire face à l'urgence. De son côté, la ministre Eve Bazaïba rassure sur l'engagement du gouvernement congolais, insistant sur l'enregistrement systématique des réfugiés afin de prévenir les infiltrations.
Et dans l'est du pays, l'insécurité n'épargne pas les acteurs humanitaires. Selon le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad, publié dimanche, l'année 2025 s'achève sur un bilan sanglant. 13 humanitaires tués, 40 blessés et autant d'enlèvements. Si le Nord Kivu demeure la province la plus rouge, le mois de décembre a été marqué par une explosion de la violence au Sud Kivu. Les autres provinces concernées sont l'Ituri, le Tanganyika et le Maniema. Et le nombre d'incidents est encore plus grand, Jean Gandou.
En 2025, ce sont plus de 600 incidents qui ont visé les acteurs humanitaires dans l'est du pays. Le Nord Kivu détient le triste record de la province la plus risquée, concentrant près de la moitié des cas enregistrés. Selon ce rapport, c'est la province du Sud Kivu qui compte 50% des incidents du mois dernier, surpassant même le Nord Kivu. Une situation qui s'explique par les affrontements et l'insécurité grandissante sur les axes de distribution. Toutefois, le rapport note que toutes les menaces ne sont pas liées au combat. Ce sont des cas de cambriolage et vol qui arrivent en tête, suivis de près par les entraves à la circulation et les actes d'intimidation. En ce début d'année 2026, ce rapport sonne comme un cri d'alarme. Il appelle à une protection réelle pour ces humanitaires qui, chaque jour, risquent leur vie pour soulager des populations prises au piège de la crise sécuritaire.
Relancer l'économie solidaire au Nord Kivu, malgré les affres de la guerre, c'est le défi que se lancent sur place les associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans les territoires de Massissi, ces associations tentent de panser les plaies d'une année 2025 difficile. Et si l'insécurité a paralysé de nombreux groupes, le nouveau cycle 2026 suscite l'espoir. Et pour ne laisser personne de côté, les membres proposent de revoir à la baisse la valeur des parts déposées chaque semaine, afin que l'épargne reste possible malgré la précarité actuelle. Et quelle est la valeur de ces associations villageoise d'épargne de crédit pour les habitants de Massissi? Réponse dans ce reportage de Rosalie Ezawadi.
Au-delà de l'argent, la valeur de ces associations est sociale. Dans un territoire meurtri par les conflits, se réunir chaque semaine pour épargner ensemble recrée du lien et de la solidarité. Ces associations ont ancré la culture de l'épargne au cœur des foyers. Pour Nehema Pai Pai, responsable du réseau des AVEC Alliance Umoja de Massissi Centre, le défi actuel est de remobiliser les membres.
On va encore sensibiliser de nouveau les membres. C'est fixer aussi un montant qui sera raisonnable à tous les membres et recommencer les activités malgré les difficultés que nous sommes en train de parcourir pendant ces temps. Mais et nous comptons réorganiser encore les AVEC parce que les AVEC leurs aident pour la scolarisation, l'alimentation aussi des enfants et beaucoup de choses. Et quand il y a un besoin urgent, et là, on vient dans l'AVEC, on donne un crédit raisonnable et on paye en état libre.
Après avoir tout perdu pendant la guerre, de nombreux membres de ces regroupements d'épargne communautaire espèrent le retour d'une stabilité réelle pour transformer leur petit crédit en projet de vie durable. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Restons dans l'économie. Formaliser le secteur informel, c'est l'un des objectifs poursuivis par la campagne de sensibilisation lancée le week-end par le regroupement syndical L'Union fait la force. Il s'agit d'une structure constituée de la Confédération démocratique du travail CDT et de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet IFSI-ISVI, financé par l'Agence belge de coopération Enabel et cible plusieurs catégories de travailleurs dont le personnel domestique, les motocyclistes et les creuseurs artisanaux. Le coordonnateur de ce regroupement syndical invite le gouvernement à peser de tout son poids pour que l'application de la Convention 189 sur la protection des travailleurs domestiques soit effective sur toute l'étendue de la République. Didier Mukomo Abel explique ce qu'il en est dans ses propos recueillis par Plotin Yambenga.
L'objectif, c'est un, formaliser ce secteur. Que ce secteur très important puissent quitter l'économie informelle vers les formels. Deuxièmement, que ces catégories de travail puissent être syndicalisées, qu'ils puissent s'affilier aux deux syndicats que nous avons, dont nous avons la CDT et l'UNTC, qui vont les former et les informer par rapport à leurs droits. L'objectif, c'est de rendre leur travail fluidifiable et de rendre ce travail officiellement décent. La protection sociale soit garantie et que les conditions de travail soient améliorées. Les conditions de travail, c'est aussi le salaire et l'environnement du travail en leur avantage, justement pour qu'ils soient dignes d'être appelés travailleurs, qu'ils soient fiers d'être appelés travailleurs. Et d'une part aussi, que leurs employeurs comprennent que maintenant, ils ne vont plus jamais réduire à rien leurs travailleurs, parce que les domestiques, ce sont aussi les travailleurs comme eux. Ils ne vont pas les prendre comme ils les prennent maintenant. Ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de congés, ils n'ont absolument aucun avantage. Ils ne respectent même pas les codes du travail.
Notez que le secteur informel constitue l'économie nationale à la hauteur de 81%. Nous sommes au Congo central, où la cité de Kimpese précisément. Plus de 1000 élèves d'une douzaine d'écoles n'étudient plus depuis jeudi dernier et près de 200 familles sont aujourd'hui sans abri. C'est la conséquence d'une pluie torrentielle accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur Kimpese la nuit de mercredi à jeudi dernier. Le sous-préfet de Songololo 1, Emmanuel Lambia Vanga, qui livre cette information, se dit profondément touché. Il appelle les autorités à remédier urgentement à cette situation qui les empêche de bien reprendre les cours après les vacances de Noël.
Les établissements scolaires touchés par cette pluie torrentielle sont notamment les instituts Vuzilandu et André Wameso, ainsi que des écoles primaires Vuzilandu et Zizila. Si dans certaines, les toitures ont été complètement emportées, exposant et endommageant des documents administratifs, dans d'autres, ce sont des bâtiments qui se sont écroulés. Le sous-prophète de Songololo 1 n'a fait que constater les dégâts. Il est désemparé. Emmanuel Mbiyavanga.
J'ai des larmes aux yeux. Quand l'enfant ne va pas à l'école, moi, je suis mal à l'aise. Il y a plus de 1000 élèves qui n'étudient pas à cause de ces dégâts. Je demande aux autorités de nous venir en aide.
Des écoles, cette pluie accompagnée d'un vent violent a aussi laissé 200 familles sans abri, leurs maisons étant dévastées. Sylvain Matutanga, coordonnateur de la société civile de Songololo, affirme que ces sinistrés n'ont jusqu'à présent reçu aucune assistance des autorités.
Nous nageons déjà vers 200 maisons qui ont été détruites. Des sinistrés qui sont abandonnés à leur triste sort. L'SOS est lancé auprès des autorités pour qu'ils puissent au moins chercher des solutions appropriées pour cette réalité.
Le secteur de la santé n'a pas été épargné. Un bâtiment du centre de santé Saint-Thaddée s'est effondré sous cette même pluie, compliquant ainsi l'accueil des malades. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Situation presque similaire au Nord Kivu. Plus de 500 élèves des écoles primaires Kilewe et Mbene dans la ville de Beni ne savent plus étudier depuis vendredi dernier. C'est la suite d'une pluie torrentielle accompagnée de vents violents aussi qui s'est abattu sur la ville. La protection civile plaide pour la réhabilitation urgente de ces bâtiments scolaires afin de permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Marc Maroufimbo.
Au moins 8 salles de classe, un bureau et 10 toilettes des écoles primaires Kilewe et Mbene dans la ville de Beni ont perdu leurs toitures emportées par les vents violents qui a soufflé sur la ville de Beni vendredi soir. Tous les documents administratifs ont été endommagés par ces intempéries. La protection civile parle d'une situation catastrophique et appelle à la réhabilitation urgente de ces bâtiments pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Jean-Paul Capitula est le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni.
C'est une urgence. Nous demandons tous les humanitaires, le gouvernement, que nous puissions venir auprès de ses enfants, les aider, étudier sous le soleil ardent. Et s'il pleuvait encore une fois, je ne sais pas quel sera le sort de ses enfants. 10 lunettes de toilette, les latrines, ont été aussi emportées par le vent. Donc ces enfants, on ne sait pas, ils vont faire les liens d'aisance où. Parce qu'à ce moment ici, il n'y a plus de liens d'hygiène. C'est un danger pour développer des épidémies pour ces enfants. Il faut que tous ceux qui ont la bonne volonté puissent mettre la main sur la patte pour que les deux écoles puissent avoir une assistance urgente. Surtout, la réhabilitation urgente de ces 8 salles de classe qui ont été touchées. Si nous voulons investir dans ces enfants, c'est urgent que nous puissions venir les secourir pendant ce moment ici où ils sont touchés par une catastrophe.
Dans la commune de Moulekera, des murs des maisons se sont écroulés, causant également d'importants dégâts matériels. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Turquie, une sécheresse record prive la capitale Ankara d'une large partie de ses ressources en eau. Elle est même devenue un prétexte à une polémique politique. Le gouvernement accuse la mairie, détenue par l'opposition, d'être responsable de la situation. Mais le maire d'Ankara, possible rival du président Erdogan à la prochaine présidentielle, renvoie la balle au gouvernement et l'accuse de tenter de le déstabiliser.
L'invité.
Vous l'avez sans doute constaté, Radio Capi vient de lancer une nouvelle grille de programmes ce lundi. Les magazines phares maintiennent leurs horaires habituels. Quels sont les grands changements opérés et qu'est-ce qui motive cette initiative? Le directeur de programme des Radio Capi répond à toutes ces questions. Jean-Marc Matouaki s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur Jean-Marc Matouaki.
Bonjour Blaise Ndongala Mayan.
La Radio Capi, Radio des Nations Unies, lance une nouvelle grille des programmes. C'est lundi 12 janvier 2026. Qu'est-ce qui motive les lancements de cette nouvelle grille des programmes?
Merci pour la question. La grille des programmes, c'est un peu comme la colonne vertébrale d'un média, que ça soit une radio, une télé, et c'est aussi une dynamique. Les programmes évoluent en fonction des besoins des audiences. Et Radio Capi, cette année, le 25 février 2026, va totaliser 24 ans d'existence. Donc l'année prochaine, c'est notre 25e année. Alors, pourquoi une nouvelle grille des programmes? C'est parce que les différentes émissions, les différentes chroniques, ainsi que tout ce que nous avons pu proposer à nos auditeurs, nous avons pu avoir un certain retour. Et c'est en fonction de ces retours-là que nous avons pensé redynamiser la grille actuelle. Et j'en profite d'ailleurs, puisque nous sommes encore au mois de janvier, pour présenter nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité et surtout des fidélités à tous nos auditeurs, auditrices et internautes qui continuent à nous faire confiance.
Donc, quels sont les grands changements opérés et pour quel but?
Je commence du côté information, côté news, comme nous avons l'habitude de le dire ici au niveau de la radio. On a revu les horaires de nos journaux en langue nationale. Généralement, les journaux en swahili démarraient à 5h05, heure de Kinshasa. Mais avec cette nouvelle grille, on a essayé un peu de décaler ça un peu plus tôt, c'est-à-dire les journaux en swahili commencent à 4h30 de Kinshasa, plus une heure au centre et à l'est
du pays.
Voilà. Les journaux en Tchuluba, qui étaient diffusés autrefois à 5h30, passent 30 minutes plus tôt, donc à 5h, et les journaux en Kikongo passent à 5h30. Il n'y a pas de changement du côté journal en Lingala et les blocs Lingala, comme on l'appelle ici. Il y a aussi des nouveaux programmes. On a essayer un peu de renforcer les côtés radio-service, c'est-à-dire des programmes pédagogiques qui tendent à répondre à certains besoins. Par exemple, les auditeurs seront habitués à suivre une émission qui s'appelle Emploi et Business. Vous savez, c'est un magazine sur la reconversion professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi sur Radio Capi. Ce magazine tient...
De combien d'heures?
Un magazine de 55 minutes pour essayer de répondre aux besoins par rapport à l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, si on fait les constats, chaque année, il y a beaucoup d'universités qui déversent sur les marchés des diplômés, mais qui parfois, pour s'adapter par rapport au contexte du marché de l'emploi, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que quand on suit certaines offres d'emploi qui passent, on demande aux gens d'avoir un peu plus d'années d'expérience.
Et je connais des amis qui, après avoir fini, ont fait 20 ans, 25 ans, voilà, diplômés, licenciés, voilà, mais ils n'ont jamais travaillé. Alors, quand vous lui demandez d'avoir beaucoup plus d'expérience, vous voyez ce que ça fait?
Justement, ce magazine va tenter de répondre à cette préoccupation, mais aussi parler de cette reconversion professionnelle qui est indispensable pour éviter les taux de chômage dans notre pays. Et renforcer aussi les côtés détente, et l'idée c'est aussi de pouvoir joindre l'utile à l'agréable, créer des moments de détente, mais aussi en même temps essayer d'offrir aussi du contenu pour informer les gens.
C'est bien de parler d'innovation. Quand on parle Radio Capi, on voit naturellement ces magazines interactifs phares, notamment Dialogue entre Congolais, au Capi Service,
Parole
aux auditeurs. Que deviennent-ils?
Ça, c'est notre ADN. Ça peut pas changer. C'est ce qui fait notre identité.
Donc ces magazines gardent leurs heures habituelles.
Ces magazines demeurent. Cependant, il y a quelques ajustements par rapport aux horaires. Au Capi Service sera désormais diffusé lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. Parole aux auditeurs passera mardi et jeudi de 9h à 10h, avec rediffusion à 21h bien sûr. Dialogue entre Congolais, pas de changement, sauf on a essayé un peu de rajouter 10 minutes, parce qu'on a reçu beaucoup de plaintes des auditeurs qui disaient mais pourquoi ne pas accorder une heure à Dialogue entre Congolais. Donc du coup, Dialogue entre Congolais sera diffusé du lundi jusqu'à jeudi de 19h05 jusqu'à 20h. Et puis le week-end, il n'y a pas de grands changements à signaler, on aura vraiment du contenu intéressant.
Okapi et Métissage est toujours là.
Okapi Métissage est là, Okapi Sport est là, grand témoin et grande interview. On a Découverte va passer les après-midi dans un format d'une heure. Et il y a aussi des nouveaux programmes comme Okapi by Night. Donc ça sera un peu faire vivre un peu l'ambiance qui règne le week-end, tout ça.
Si à l'occasion du lancement de cette nouvelle grille, si on vous demandait d'adresser un petit message aux auditrices, éditeurs et puis internautes de Radio Okapi, qui diriez-vous?
Merci, merci de tout cœur pour avoir fait confiance à cette radio que vous aimez depuis plus de 20 ans. Et surtout, merci du fait que vous avez pu vous approprier cette radio. Si cette radio existe, c'est grâce à vous.
Merci à vous, Jean-Marc Matoua, qui merci. Vous avez accepté de répondre à nos questions.
Avec merci à toute la direction de la radio et à toutes les équipes qui travaillent pour que cette radio puisse continuer à faire son travail et surtout à offrir le meilleur de ses audiences.
Jean-Marc Matoua, qui est directeur des programmes de Radio Okapi, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui venez de le suivre. Il a été préparé par Jude Mista Bilanda et Jean Gandou avec l'apport technique de Alain Goy. Passez une excellente semaine en compagnie de Radio Okapi.